Vous avez dit qu'une personne pouvait être une vraie personne avec une recherche loyale de la vérité sans nécessairement aboutir à des conclusions vraies. Par exemple, à propos de la découverte de l'existence de Dieu. Mais cela ne reste-t-il pas une forme de sincérité? Pourquoi pas? C'est pas si mal une forme de sincérité. Quelqu'un qui vraiment cherche la vérité, qui est sincère, on peut avec lui discuter. Il n'est pas fermé. Il revient toujours par rapport à lui-même, mais bon, c'est son expérience. C'est son expérience. Je crois qu'il faut une très grande miséricorde. Il y a un risque, c'est évident qu'il y a un risque, mais il y a un risque aussi d'attaquer quelqu'un qui est dans une vraie recherche sincère de la vérité et qui se trouve en face de quelqu'un qui, alors, dogmatiquement, lui affirme « Ah, tant vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas dans la vérité. » Mais des deux côtés, il y a des périls. Hein. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un péril. Mais étant donné la complexité de l'homme, il faut avoir une très grande miséricorde dans la recherche de la vérité. Étant donné la faiblesse de notre intelligence humaine liée à l'imaginaire, notre intelligence humaine a tellement de peine à rester dans une ligne tout à fait juste. Et quand on a atteint ça, on est très miséricordieux pour les autres parce qu'on sait que c'est très difficile. Et je crois qu'à ce moment-là, alors, c'est sûr, je suis d'accord qu'il y a un danger de sincérité. Mais la sincérité, quand on sait qu'on a vraiment quelqu'un de sincère, permet la discussion. C'est jamais une fermeture complète. Il y a une différence entre une sincérité qui maintient une recherche de vérité et une sincérité où ce que je dis, c'est la vérité. C'est pas la même chose du tout. Mais c'est pour ça que faisons attention quand on regarde tout de suite accabler quelqu'un de sincérité, de manquer d'objectivité. C'est plus souple, c'est plus délicat. Dans cette recherche de Dieu, quelqu'un qui a été très formé par les mathématiques. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit. On est en face de ça. Quelqu'un qui a été très formé par les mathématiques, qui, avec une très grande sincérité, cherche à découvrir la possibilité pour l'intelligence humaine de découvrir Dieu. Il est sûr, objectivement, qu'il ne peut pas découvrir l'essence de Dieu par les mathématiques. J'en suis absolument sûr. Mais il n'est pas encore capable de pouvoir l'affirmer. Et au nom d'une sincérité, il cherche. Il est très pythagoricien. Et je ne vais pas l'accabler. Je vais lui dire chercher. Votre sincérité, si elle demeure toujours, arrivera nécessairement à reconnaître que votre sincérité vis-à-vis de la recherche du sens de Dieu ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais, au fond, il faut corriger la sincérité pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Puisque vous voulez la sincérité, vous acceptez au moins que certains découvrent l'existence de Dieu. C'est le premier pas, accepter que d'autres, par des voies métaphysiques, découvrent l'existence de Dieu. C'est le premier pas. De ne pas se mettre soi-même contre tous ceux qui ont affirmé la possibilité de l'existence de Dieu. Mais cela ne reste-t-il pas une forme de sincérité ? Dans cette mesure, cette personne n'est-elle pas imparfaitement une personne au sens de... au sens d'inaccompli, c'est sûr. Donc elle n'est pas arrivée par elle-même, par ses expériences, par sa philosophie, à affirmer l'existence d'un être premier. Il reste en échec. Il n'a pas découvert son père. Il n'a pas découvert d'où il venait. Donc il reste orphelin. J'ai grande pitié pour les orphelins. Et c'est vrai, c'est une très grande grâce de Dieu d'avoir découvert l'existence de Dieu et d'avoir découvert comment cette existence de Dieu modifie toute ma vie. Et il faut, je crois, en même temps reconnaître que si on est arrivé à ça, il y a eu dans la conduite de Dieu sur nous une très grande miséricorde. On aurait pu rester sur ce chemin qui n'aboutit pas. Mais au fond, c'est toujours ça la grande difficulté. C'est d'avoir un sens très aigu d'une rigueur objective, en sachant très bien que cette rigueur objective réclame du sujet un grand amour. Et d'autre part, une très grande miséricorde vis-à-vis des hommes qui sont dans cette recherche. L'humanité d'aujourd'hui réclame de nous une très grande miséricorde. Elle s'embarque quelque chose qui n'aboutit pas et qui ne peut pas aboutir. Donc... elle est dans un état de misère au point de vue intellectuel. Mais là, on doit avoir une très grande miséricorde. C'est pas pour rien qu'il y a en même temps cette espèce d'affirmation du Saint-Père sur la miséricorde divine qui doit être affirmée avec une telle force. On n'ira jamais trop loin dans la miséricorde de Dieu. Elle est infinie. Troisième dimension, c'est justement cette dimension de l'amour. On ne peut pas être vraiment une personne humaine, complète, miséricordieuse, s'il n'y a pas une priorité de l'amour. Je ne dis pas simplement amour, mais une priorité. Si on ne considère pas que, vu la complexité de l'homme, et cette complexité se fait sentir de plus en plus, plus on s'élève, plus on va loin dans la recherche de la vérité, plus il y a une différence entre ce que mon intelligence peut affirmer par elle-même et l'amour profond que j'ai de la vérité. La découverte, si vous voulez, du primat de l'amour. Et cette vérité du primat de l'amour, elle est fondamentale. Quand saint Thomas affirme que je ne peux découvrir l'existence de Dieu que par l'amour, que si j'ai découvert cette priorité de l'amour sur la vérité, je crois que c'est très très fort ça. Découvrir en nous que l'amour est toujours premier. Et que plus on découvre quelque chose de grand, alors je ne peux pas découvrir quelque chose de plus grand que Dieu, l'amour est nécessaire dans cette découverte. Si j'exclus l'amour, et ça existe, hein, faut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Si j'exclus l'amour, je la mets entre parenthèses, pour être plus objectif, comme on dit. Certaines personnes, je ne précise pas, mais beaucoup, il y a beaucoup de personnes dont leur intelligence est très développée, mais qui au fond n'ont jamais saisi que l'amour, la découverte de l'amour, était quelque chose de fondamental et de premier. Ils ont cru et ils croient que tant que l'intelligence n'a pas découvert par elle-même, ils ont très peur de l'affectivité. C'est très curieux de voir les personnes qui ont très peur de l'affectivité, qui arrivaient vers 45 ans, 50 ans, tombent dans l'affectivité. C'est une espèce de vengeance. C'est, vous remarquez ça, on est obligé de se taire. Mais on voit ça comme ça. C'est que, et au fond, c'est la différence entre la recherche purement rationnelle et une recherche intelligente. Je distingue les deux. C'est la fameuse distinction d'Aristote et de saint Thomas entre logos et intellectus. Je crois que cette distinction est capitale. Or, elle a disparu au XIVe siècle avec Occam. elle a disparu pratiquement avec Descartes. Et dans chaque pays, il y a quelqu'un, un philosophe rationnel, qui s'est élevé et qui a rabaissé l'amour, qui a refusé le primat de l'amour. Vous voyez, dans votre étude des philosophes européens, une étude indispensable aujourd'hui, si on veut comprendre ce que c'est que l'Europe, on doit nécessairement étudier comment dans l'Europe il y a cette découverte philosophique qui s'est faite successivement de façon très différente. Et que dans cette découverte philosophique européenne, il y a eu très souvent le rejet de l'amour. C'est très intéressant à faire comme histoire de la philosophie européenne. Alors, qu'on la fasse pour soi, parce que on essaie de trouver ça pour soi, pour voir qu'en effet, il y a eu successivement des rejets du primat de l'amour. Et ça, je crois que c'est un travail que chacun d'entre nous, nous devons faire, avec des profondeurs différentes, mais ce que nous devons faire, parce que nous vivons dans ce climat. Et quand Descartes considère que l'amour est toujours sensible, qu'il n'y a pas d'amour spirituel, alors vous comprenez, qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Si l'amour ne dépasse jamais la passion, et que ce qu'il y a de plus de supérieur à l'amour, c'est la passion. Alors, on comprend que le fait, la personne humaine se construit indépendamment de l'amour. Et c'est la seule manière de sortir de la passion. Pour d'autres pays, pour d'autres philosophes, c'est que dès que l'amour est présent, on n'a plus d'objectivité. On est nécessairement complice. Parce que l'amour d'amitié nous donne un regard particulier vis-à-vis de notre ami. Un amour particulier qui n'est pas objectif, mais qui est purement subjectif. C'est déjà beaucoup plus délicat. Mais on voit très bien comment successivement le point de vue de la primauté de l'amour spirituel disparaît et que dans ma vie humaine, il y a priorité nette de la raison. Au fond, cette distinction, arriver à discerner la différence entre la passion et l'amour spirituel, et ne pas dire amour, dès qu'il y a amour, c'est un amour passionnel, ça rejoint l'autre distinction, discerner la différence entre la raison qui reste. personne, si mon intelligence n'était qu'une intelligence raisonnante, une intelligence liée à la logique, il est sûr alors que le dépassement de cette intelligence implique un amour. Mais qui n'est pas toujours objectif, spirituel, qui peut être passionnel. Au fond, cette distinction que nous devons faire entre raison et intelligence se retrouve du côté affectif. Toujours l'affectivité au point de vue raisonnement est toujours seconde. L'affectivité est première dans l'ordre de l'exercice, mais dans l'ordre de l'analyse, l'affectivité est toujours seconde. Et donc, elle sera ou une affectivité spirituelle ou une affectivité sensible. L'affectivité sensible, c'est la passion. L'affectivité spirituelle, c'est l'amitié. Et au fond, il y aura perpétuellement, au fond de toute philosophie, au fond de toute philosophie, on retrouvera cette opposition. Et on devrait toujours la chercher. Et quelquefois, c'est pas commode de bien voir, mais c'est nécessaire de le comprendre. La différence entre un amour spirituel qui se transforme en amitié et un amour passionnel qui se transforme en amitié. Il y a des amitiés passionnelles qui ne sont pas de véritables amitiés. Et il y a des amitiés qui sont de vraies amitiés où l'amour est spirituel et dépasse au point de vue de la passion. C'est à l'intérieur de l'amitié que Aristote fait la distinction entre l'amitié véritable, l'amitié passionnelle, l'amitié utilitaire. Ces trois aspects différents sur l'amitié et qui sont toujours présents, même si vous avez un amour spirituel, très spirituel, pour telle personne, gardez ce caractère spirituel de l'amour et faites attention que la passion, petit à petit, n'arrive pas à être victorieuse. Ou si cette amitié spirituelle ne réussit pas, il y a de gros échecs, alors on se rabat vers une amitié utilitaire. Il faut arriver à discerner profondément ces trois types d'amitié, parce que c'est à l'intérieur de cette division des trois types d'amitié que nous pouvons comprendre la place de l'amitié dans notre recherche vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas l'amitié utilitaire, ce n'est pas l'amitié de jouissance qui peuvent nous aider. C'est l'amitié dans toute son objectivité et sa pureté. L'amitié qui touche la bonté de l'ami, la bonté de la personne. Alors ça, cet amour-là implique nécessairement un primat de l'amitié spirituelle. Cette amitié spirituelle implique en elle une part affective, sensible, une part même utilitaire et un dépassement du sensible et de l'utilitaire pour découvrir le véritable amour. Nous pouvons tous, dans une attitude réflexive, arriver à discerner ces trois types d'amitié. Et c'est très très important dans notre vie, dans notre éducation spirituelle, de faire cette distinction. D'arriver à saisir la véritable amitié spirituelle qui peut conduire à Dieu. L'amitié utilitaire ne conduit pas à Dieu. L'amitié passionnelle ne conduit pas à Dieu. Seule l'amitié spirituelle, la véritable amitié, au-delà de la passion. Alors, cette amitié-là porte en elle quelque chose d'absolu. Et c'est parce qu'elle porte en elle quelque chose d'absolu qu'elle peut dépasser l'intelligence raisonnante et arriver vraiment par l'amitié à une découverte de l'ami. C'est capital, ça. Et c'est, je dirais, relativement facile à discerner dans toute réflexion philosophique pratique, nous arrivons à discerner les trois. Nous avons tous, ou nous devrions tous, avoir l'expérience de ces trois types d'amitié vis-à-vis de nos relations. Alors, elles sont mêlées. Il n'y a pas d'amitié toute pure. D'amitié toute pure au niveau utilitaire, au niveau jouissance. Non, elles sont toujours liées. Ces trois amitiés. Dans tout acte d'amitié, les trois sont liés. Mais il y a toujours une dominante. Et quand on voit le développement d'une amitié chez quelqu'un, on peut repérer les dominantes, et voir que cette dominante d'une amitié très pure, très limpide, cette amitié très vraie, c'est petit à petit éteinte. Et l'amitié passionnelle est passée devant. Et c'est ça qui est très, très particulier dans l'amitié. C'est que à l'intérieur même d'une amitié vraie, spirituelle, une amitié digne de l'homme, il y a toujours une possibilité de tomber dans l'amitié passionnelle et dans l'amitié utilitaire. Ordinairement, c'est parce que on est désabusé. L'ami ne nous donne pas ce qu'on attendait de lui. L'ami nous échappe. Il reste présent dans notre vie, mais ce n'est plus du tout comme au point de départ la découverte d'un bien personnel. Il n'y a plus que l'aspect physique, corporel, sensible, sensuel, qui domine. Et c'est ça qui est très subtil, hein. C'est que dans l'amour véritable, dans l'amour spirituel, cet amour spirituel implique d'être sensible. Il n'y a pas d'amour qui n'est pas sensible. C'est impossible. L'amour est toujours sensible. Mais le côté sensible de l'amitié n'est jamais premier. Et s'il devient premier, il contamine l'amitié et fait que l'amitié se glisse, qu'elle se met à glisser pour devenir passionnelle. Et ça, on le voit tous les jours. Dans le mariage, au moment où les jeunes se sont fiancés et puis mariés, on dirait comme ils aiment bien, comme c'est beau. Oui, et puis cinq ans après, oh tiens, ça a dégringolé. Parce qu'au fond, l'amour est ce qu'il y a en nous de plus fort et de plus fragile. C'est ce qu'il y a de plus fort et de plus fragile. Et donc, si on n'a pas une intention toujours en acte de faire que cet amour spirituel demeure un amour spirituel, un amour spirituel victorieux de toutes les passions. Parce que les passions existent. Et elles existent à l'égard de l'ami qu'on aime du poisson spirituel. Il a un corps, lui aussi. Il a une sensibilité. Et on découvre en lui, quelquefois, une sensibilité qui est en pleine harmonie avec la nôtre. Alors comme étant en pleine harmonie vis-à-vis d'un autre, ben, on demeure dans ce sensible. C'est si bon. C'est si agréable de demeurer dans un amour sensible mutuel. Ah, je t'aime. Comme ça me fait du bien. Ça me rafigote. Et l'autre dit la même chose. Alors, l'amour ce père, il perd sa qualité, il perd sa dignité. Aimer l'ami et aimer le petit chien, c'est presque la même chose. C'est très étonnant de voir ça. On voit, au point de départ, cette amitié très belle qui s'étend. Et puis, au point du feu, on voit le chien. On dit, tiens, tiens, faisons attention. Et le chien ou le chat, ça dépend. Et le chien et le chat sont là pour maintenir un amour sensible. Et même sensuel, quelquefois. Et l'amour, dans sa dignité et sa force spirituelle, doit lutter tout le temps contre cet amour sensible qui demeure et qui doit demeurer. Il ne faut pas le tuer. Notre sensibilité nous aide à aimer, mais notre sensibilité peut nous jouer des tours très vite, très durs. Quand, justement, cet amour sensible passe devant. Et il passe devant d'une façon très subtile, très astucieuse. La passion, l'amour, est extrêmement subtile. Je ne dis pas intelligente, ce n'est pas juste, elle n'est pas intelligente, mais elle est subtile. La subtilité dans l'amour sensible, c'est justement de faire que cet amour sensible devient premier. Et comment on découvre cet amour sensible devient premier? Ah, c'est la jalousie. La jalousie se met à pousser. On dit avec beaucoup d'adresse, hein, tu t'intéresses aussi à cette personne. Puis après, on dit, tu l'aimes vraiment. Ça veut dire, est-ce que tu l'aimes plus que moi? Immédiatement, mais. Et c'est très subtil de voir comment cet amour vrai se corrompt. Pour passer de l'amour spirituel à l'amour passionnel. L'amour passionnel a l'avantage sur l'amour spirituel, c'est qu'il est beaucoup plus sensible. L'amour sensible, il est sensible. Et il est terriblement sensible, parce qu'il veut accaparer toute notre attention. Et il veut toujours être premier. Alors que ce n'est pas dans l'amour, l'exigence est de premier. Premier, ça implique un ordre. Cet ordre, c'est l'intelligence. Donc, dès qu'il y a un désir d'être premier, c'est l'intelligence qui a pénétré cet amour et qui veut s'imposer comme intelligence. Tu n'as pas le droit de m'aimer moins que l'autre. Et la jalousie arrive là à pénétrer. Il y a un double regard sur l'amour. On n'a plus la même simplicité. Ça, on peut et on doit en être conscient. Il y a toujours le grand danger pour l'amour spirituel de se laisser corrompre et devenir un amour qui veut être dominant, qui exclut les autres, qui veut s'imposer l'unique. Et on voit croître dans l'amour, dans cet amour spirituel, on voit croître cette espèce de tension. Jusqu'au jour, quelquefois à l'occasion d'une bêtise, ça éclate. C'est extrêmement curieux comme notre cœur humain, qui est fait pour aimer, et qui est fait pour aimer toujours d'une façon très absolue, puisque c'est l'amour, et seul l'amour, qui me donne une expérience d'absolu. L'amour veut être seul. Au point de vue de l'intelligence, on accepte l'ordre. Il y en a un que j'aime particulièrement. Oh oui, c'est sûr. Mais cet autre, je l'aime aussi d'une autre manière. Et donc l'intelligence ordonne. L'amour n'ordonne pas. L'amour s'impose et veut tout prendre. Si on ne fait pas grande attention, l'amour, parce que cet amour n'est pas suffisamment purifié, il restera toujours, du moins, la plupart du temps, il restera ce désir d'être premier. Donc, il sera vraiment amour ou il n'est plus vraiment amour, c'est quand il veut s'imposer comme exclusif. Ça, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui veut s'accaparer cet amour, qui veut que cet amour soit à nous et que soyons le seul à aimer. Et alors nous écartons absolument l'autre. Et en faisant ça, on tue l'amour. Puisque c'est l'intelligence qui vient la première pour ordonner. L'amour par lui-même n'a pas besoin de l'ordre. On aime. C'est l'amour de l'homme qui a besoin d'être ordonné. Parce que l'homme a des relations multiples, parce qu'il y a en nous ces trois formes d'amour qui sont toujours présentes. Et ces trois formes d'amour se développent très différemment. L'amour spirituel se développe différemment de l'amour passionnel. Une passion qui veut qu'on soit premier. C'est la passion qui veut qu'on soit premier. C'est pas l'amour spirituel. Moi, je t'aime. Mais tant mieux qu'il y en ait beaucoup d'autres qui t'aiment. C'est ma joie de savoir qu'il y en a beaucoup d'autres qui t'aiment. Ça prouve que j'ai bon goût. Et on est heureux de savoir qu'il y a donc beaucoup de lumière. On a assumé. Et ça, c'est l'amour qui fait ça. L'amour dépasse. Quand il y a cette jalousie, ça prouve qu'à ce moment-là, on a ouvert trop grand la porte à autre chose que l'amour. On a laissé l'intelligence mesurer cet amour. Or, l'amour n'a pas besoin d'être mesuré. Quand l'amour est mesuré, attention, l'amour va toujours au-delà de la mesure. La mesure n'est pas présente dans l'amour. L'amour, comme amour, dépasse. C'est l'amour humain qui est mesuré. C'est l'amour humain qui regarde les rivaux, qui regarde la multiplicité. Il y a quelque chose de très beau, de très grand, dans ce fait que l'amour apporte une conscience nouvelle. J'ai conscience d'aimer. Et j'ai conscience que cet amour que j'ai pour cette personne choisie, qui m'aime absolument sur moi, une très grande force. C'est normal. C'est très normal que l'amour, dans son développement, fait appel constamment à l'intelligence. Mais il y a un danger, parce que l'intelligence apporte cet ordre. Et c'est l'intelligence qui apporte cet ordre. Alors, quand cette intelligence est entièrement au service de l'amour, ça n'a pas d'importance. Mais quand l'amour a diminué, l'intelligence peut à ce moment-là communiquer cet amour. C'est l'apport de l'intelligence à l'amour. C'est très beau et c'est très grand que l'intelligence s'incline devant l'amour et rend plus conscient cet amour. Et le danger, c'est que l'ordre s'impose. Et quand alors la jalousie commence, c'est quelque chose d'extrinsèque, l'amour, qui petit à petit corrompt l'amour. Et l'amour perd sa spontanéité et sa pureté, sa limpidité, à cause justement de cet ordre. On vit à l'intérieur de l'amour et on veut que l'amour d'un tel soit exclusif et prenne tout. Donc, je dirais que ce qui est le plus éducable, ce qui réclame le plus l'éducation, c'est l'amour. Parce que c'est ce qu'il y a d'ultime en moi. C'est ce qui peut me rendre heureux ou malheureux. Et c'est par l'amour que je deviens très éducable pour que cet amour soit gardé toujours comme premier. Il a comme en lui-même, il a en lui-même cette espèce de désir d'être premier. En lui-même, il a le désir d'être premier, bien que en soi, il est au-dessus. Et ça, c'est très important de comprendre que l'amour en lui-même est au-dessus de cet ordre. J'aime. Et j'aime ne demande pas du tout, j'aime de telle manière que je t'aime plus que tous les autres. Ah. Donc, je t'aime de telle manière. C'est donc à l'intérieur de l'amour, une certaine modalité de l'amour. Ce n'est pas l'amour. L'amour en lui-même est toujours un absolu et n'a pas besoin d'être premier. C'est assez extraordinaire, ça. Il n'a pas besoin d'être premier. Il est. Il a besoin d'être premier lorsque je le compare, lorsque un autre intervient. Alors, intervient l'ordre. Mais en lui-même, l'amour est absolu. C'est le seul absolu que j'expérimente. Cet amour, je veux essayer de voir si cet amour